Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes. Bon mercredi, c'est le 27 août 2025. Très belle journée en perspective, ensoleillée, frais. C'est parfait pour le retour à l'école parce que c'est semaine de rentrée pour plusieurs élèves, plusieurs étudiants. Tout va bien, Mathieu?
Tout à fait.
Oui, vous portez le T-shirt sur lequel est écrit « Poupée rustre ».
Et voilà.
Est-ce que c'est vous qui l'avez inventé?
Non, pas du tout.
Non? C'est une commande. Mais est-ce que ça existe en série? Est-ce qu'il y en a plus qu'un T-shirt « Poupée rustre »
C'est le nom d'une tatoueuse, en fait.
Ah!
Qui a pris ce nom-là, qui écrit aussi des romans, des livres, comment on appelle ça? Des romans graphiques.
Ah oui?
Oui.
Et est-ce qu'elle parle de tatouage dans ses romans graphiques? Non. Ben merci pour ce supplément d'information. Et celui qu'on a entendu un peu rigoler, il s'appelle Serge Bradet.
Oui.
Fidèle au poste, Serge.
Bonjour, Hélène.
Passez un bel été?
Oui, oui, vous aussi?
Oui, oui, on porte nos gilets soleil ce matin.
Bon retour parmi nous.
Ben merci beaucoup. C'est très gentil. Oui. Je suis contente d'être de retour. Mm-hmm. Alors, vous êtes le seul survivant de l'équipe du mercredi.
Ben, oui.
Non, mais c'est temporaire, là, parce qu'on aura la chance de retrouver Daniel Lachance et Isabelle Falardeau dans les prochaines semaine, mais aujourd'hui, vous êtes seul avec vos sujets. Vous avez préparé de bons sujets. Est-ce que vous voulez nous les présenter?
Oui, j'en ai un assez long, puis j'ai des brèves. Alors, c'est « Quand les cantons de l'Est vivaient au rythme de la contrebande ». Ah! Pardon.
Théâtreux, théâtral.
De la revue Nostalgie numéro 17 de l'année dernière, 2024.
OK. Ouais. Puis vous allez avoir aussi quelques brèves.
Oui, oui, oui. Plusieurs.
Continuez la tradition.
Oui, oui, oui.
Alors, Zachary Richard, est-ce que c'est une chanson qu'on pourrait faire jouer, cher Mathieu? C'est « Au bord du lac Bijoux ». On va commencer avec cette chanson, « Lac Bijoux » qui est au sud de la Louisiane. Et très bientôt, le 29 août, on va souligner un très triste anniversaire. Ça fait déjà 20 ans, en 2005, l'ouragan Katrina qui touchait terre en Louisiane. J'imagine que vous vous en souvenez.
Oh, oui, très bien.
L'ouragan qui frappait les États-Unis et en particulier la Louisiane qui faisait plusieurs milliers de victimes et des centaines de milliers de sinistrés. Et il y en a encore qui sont en train de réparer tout ça, leur âme également liée à cette catastrophe. Et j'ai aussi envie d'offrir cette chanson parce que aujourd'hui on souligne la toute première journée mondiale des lacs décrétée par les Nations Unies, par l'ONU. Mm-hmm. Alors voici au bord du lac Bijoux et Zachary Richard.
Dans le sud de la Louisiane, dans le bois d'Atacapo, où la rivière joint la levée. Planté dans l'anse est un vieux chêne vert au bord de lac Bijoux. Dans son feuillage, les branches font leur crochet, les hirondelles reviennent chaque printemps. Qui se réfugie dedans ce chêne vert au bord de lac Bijoux? Chêne vert au bord de lac Bijoux. C'était l'année de 57, la première fois je les ai vus, les deux ensemble se bâtir un nid au bord de lac Bijoux. revenait quand l'hiver était fini. Je les appelais Pierre et Marie. Un grand monsieur, noir comme la nuit, sa demoiselle avec lui. Donne, donne dans mes bras, j'aime serrer encore. Reste avec moi. Le chêne-bel au bord de la joue. Pendant le carême, ce dernier mois d'avril, je lui ai vu une dernière fois. Un oiseau seul posé sur sa branche au bord de la bijou. Il restait tranquille, son cœur a presque cassé, guettant du matin au soir. Jusqu'au dimanche qu'il est parti aussi du bord de la bijou. Donne, donne dans mes bras, j'aime en serrer encore. Reste avec moi.
Oui, au bord du lac Bijou par Zachary Richard, très belle chanson tirée de son album paru en 1996, Cap enragé, une chanson qu'on vous offrait pour souligner notamment la Journée mondiale des lacs, toute première en ce 27 août 2025 décrétée par l'ONU. Et j'étais curieuse de savoir si vous aviez un lac coup de cœur, un lac qui vous est cher, Serge.
Oui, mais moi, j'ai passé une grande partie de mon enfance à Val-Barrette, près chez mes grands-parents qui avaient une ferme. Et tout près, il y avait le lac François.
Le lac François.
Oui, et c'est là qu'on allait. On avait de la famille qui était là.
Dans quel coin?
À Val-Barrette, près de Mont-Laurier.
Ah, Val-Barrette,
oui,
ça ne me dit rien.
Oui, oui. C'est dans le coin de lac Saguenay, lac des Écorces. Oui. Un petit village, là, c'est
OK, pourtant, je passais souvent par Mont-Laurier quand je travaillais à Val-d'Or. Ouais. Okay.
Bien, il faut, quand vous montez, avant d'arriver à Mont-Laurier, vous arrivez au lac des Écorces, et là, il faut tourner à gauche dans les terres.
Ah,
puis là, vous allez à Val-Barrette.
On arrive à Val-Barrette.
Oui, Val-Barrette.
C'est un joli lac.
Oui, il est beau, puis il est assez grand. Faire le tour, là, c'était long parce qu'il tombait dans un autre lac, puis un autre lac après ça.
Ah oui.
Puis de l'autre côté, un autre lac aussi. Bon. Le lac à la poche, le lac à la truite, le lac à je ne sais plus trop qui. Il y avait différents noms.
Et vous, pas Serge, mais cher Mathieu?
Mon lac préféré est situé entre le plus récent lac que j'ai visité et le prochain.
OK. Alors, vous tombez en amour avec tous les lacs. Vous êtes infidèle du lac.
Mais je me souviens qu'en Beauce, j'ai beaucoup travaillé dans les terres.
Oui.
Et on travaillait sur des terrains privés et il y avait une compagnie forestière qui avait nommé une succession de lacs. Le premier, c'était le lac du Boss. Ensuite, c'était le lac du gars. Le lac du gars en retard.
Non.
Le gars, oui, c'était très drôle.
Est-ce que c'est resté?
Ah, ben c'était des panneaux qui avaient été posés par la compagnie.
Oui.
Je pense pas que
mais les plans d'eau existaient pour vrai.
Oui, c'était des vrais lacs.
Puis ils n'ont pas nécessairement ces noms-là. Là. C'était des inventions.
Exactement.
Mais ah, ben c'est rigolo. Oui, très sympathique.
Et vous,
oui. Moi, j'ai grandi en face du lac des Deux-Montagnes. Alors, c'est mon lac préféré à vie jusqu'à la fin des temps. Et il y a beaucoup de voiliers sur ce lac-là. Je suis très contente parce qu'il n'y a pas de si doux, là, les motos marines. Quand on en voit une, on leur dit « bye bye, vous pouvez circuler, circuler ». Parce que ça se tient surtout là où ils peuvent faire leur spectacle, c'est-à-dire de l'autre côté de la rive, à la plage d'Oka. Là, il y en a un peu plus, des embarcations à moteur et des motos marines. Mais ce lac-là est merveilleux. Même en fin de semaine, j'avais l'impression d'être devant... Il est immense, on ne voit pas l'horizon. Puis quelquefois, on a l'impression que c'est la mer quand c'est agité. C'est un lac merveilleux, le lac des Deux-Montagnes. Oui, Serge?
À remarquer que Mathieu, sa première réponse, une réponse de politicien, hein?
Ben, politicien,
j'aime mieux,
ouais.
J'aime mieux... comment est-ce qu'il m'a dit ça en premier? Là, c'est le premier, le lac que j'ai...
Non, c'est le prochain lac que je visiterai, je vais dire ça.
Et ça, ouais. C'est la réponse du politicien.
Mais il veut pas faire de chicane, mais en même temps, c'est parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les lacs.
Oui, j'en vois beaucoup. Bon, je vais dire le dernier que j'ai visité, c'est le lac Aubry, dans le parc de la Mastigouche.
Oh.
C'est un joli lac que nous avions à nous seuls.
Pour vrai, un lac privé.
Oui, ça coûtait cher, mais c'est un lac à toi.
Oui. Moi, j'ai appris à nager dans le lac des Deux-Montagnes, mais là, la nage est plus ou moins recommandée parce que c'est pollué. Alors, cette journée-là aussi, et surtout, c'est pour, rendre hommage au lac, mais aussi le message, c'est prenons-en soin.
Oui, ben oui.
On a des beaux lacs dans les cantons de l'Est. C'est là où vous nous amenez, Serge.
Oui.
C'est pas ce bruit-là.
Ah oui, ben c'est ça. J'ai commencé à fêter le retour de Lens hier. J'ai continué au déjeuner ce matin. J'ai pris un petit gin. Là,
puis... OK, parce que vous allez parler de contrebande.
Oui. Alcool illicite et pègre en Estrie. Alors, quand les cantons de l'Est vivaient au rythme de la contrebande, un article de Robert Laplante dans le numéro 17 de Nostalgie, un numéro de 2024. Quand on pense à la prohibition, on pense aux États-Unis et pas au Québec. Pourtant, la belle province y a joué un rôle important, particulièrement les cantons de l'Est, les coquins. Proche de la frontière américaine, l'Estrie avait tout pour devenir un terrain parfait pour les contrebandiers. Il y en a toujours eu, et des deux côtés de la frontière, explique l'historien Laurent Busseau, fondateur du site Internet Historiens sans frontières. Il faut dire que la possibilité de ne pas payer de taxes au gouvernement a toujours été séduisante. Nous, on le ferait pas, mais bon, il y a des gens qui le font. Hein. Nous, on est des bons citoyens.
Ben oui.
Bon, on fait pas ça.
Même pas besoin de le dire.
Non. Du commerce illicite de la fourrure au 16e siècle à celui de l'alcool, en passant par la mélasse, le thé, les épices, le tabac, la lingerie, le savon, le coton, le sucre raffiné et tutti quanti. Il y avait de la contrebande pour tout ça. C'est toute une économie parallèle qui s'est construite sur la frontière. Une économie qui en a séduit plusieurs, y compris, imaginez-vous, les bonnes sœurs.
Oui.
Ah, oui. Enfin, pas toutes les bonnes sœurs, mais au moins...
Les sœurs grises.
Oui. Mais au moins quatre d'entre elles. Parce qu'en 1924, les douaniers de Richford, au Vermont, arrêtent quatre religieuses montréalaises qui tentaient de passer en douce 1000 $ de quoi? De?
D'alcool?
Non.
La robine?
D'eau bénite.
Non.
D'eau bénite alcoolisée.
1000 $ de dentelle française et belge.
Ah oui!
Destinée à un couvent vermontois. Ben, c'était pour la bonne cause, là, les pauvres.
Bon. Les dentelles. Oui. Pour faire quoi avec? Oui.
Ben, pour les ornements d'église.
Oui.
Alors,
pour la lingerie.
Oui. Si même les servantes de Dieu faisaient de la contrebande, c'est qu'elle était inscrite dans notre ADN, dit-il.
Parce qu'il n'y a pas juste la contrebande d'alcool.
Non. La nouveauté avec la prohibition, c'est qu'elle donne une impulsion nouvelle à la contrebande d'alcool. D'autant plus que la porosité des frontières et les faibles peines du côté canadien, des amendes et quelques mois de prison, ça la rendait irrésistible pour les contrebandiers. Elle était pratiquée partout au Canada, toutefois à cause de la particularité du Québec, qui a une frontière commune avec le Maine, le Vermont, le New Hampshire et New York, et du manque de postes de douane, elle était plus difficile à contrôler ici, ajoute l'historien. Alors, ça nous donnait l'avantage. Comme l'occasion fait le larron, dit-on, la contrebande d'alcool est vite devenue populaire. Et quand on dit populaire, on dit populaire. En 1930, un douanier Suttonais de Sutton affirmait avoir compté jusqu'à 1100 voitures. En 1930, là, les voitures, il n'y en avait pas, c'était pas énorme, là. Alors, 1100 voitures, là, c'était pas toute la population, mais pas, c'est une bonne partie de la population, qui se dirigeait quotidiennement et à toute vitesse vers la frontière. Aux grandes dames des autorités américaines qui font pression sur les gouvernements pour faire cesser ce trafic. Malheureusement, alpaguer les contrebandiers est une mission presque impossible. Ces derniers déploient des trésors d'imagination pour échapper aux forces de l'ordre. Ces derniers et ces dernières, parce que les femmes y participent aussi. Comme les douaniers n'avaient pas le droit de fouiller les femmes, elles passaient la frontière tranquillement.
Fouiller les femmes, il me semble que ça sonne drôle à mes oreilles.
Oui. Elles passaient la frontière tranquillement, lance l'historien. Elles se faisaient faire des ratoureuses. Elles se faisaient faire des bidons qui moulaient leurs hanches et qu'elles cachaient sous un large manteau de fourrure.
Ah oui.
Oui. Les bidons pleins d'alcool devenaient alors indétectables, s'enthousiasme le storyboardiste Stéphane Lemardelé, qui réalise présentement, en collaboration avec Laurent Busseau, une BD sur le sujet. En 1927, les autorités engagèrent des douanières qui, elles, pouvaient fouiller la jante féminine.
Aller sous le manteau de fourrure.
Oui, oui. Si la méthode la plus efficace restait les voitures puissantes qui traversaient la frontière à vive allure, on en notait aussi des plus originales. Certains contrebandiers, par exemple, s'enroulaient autour du corps des tuyaux de caoutchouc remplis d'alcool. Faut le faire. D'autres le cachaient dans des œufs crus, dans des bouteilles de lait, dans des troncs d'arbres de Noël qu'ils livraient de l'autre côté de la frontière. Quand on est, on est créatif, hein, pour...
quand on veut, on peut.
Quand on veut, oui. Il y a eu à Sutton un corbillard qui est passé aussi à la frontière avec de l'alcool, s'esclave Laurent Busseau. Certains bootleggers se faisaient même faire, ça, j'avoue que c'est vraiment créatif, ils se faisaient faire des sabots de chevreuil ou de vache qu'ils plaçaient sous leurs semelles. Alors, ils traversaient par la suite les bois avec leur chargement sur leurs épaules, et comme ça, si on les pistait, on voyait des empreintes de chevreuil ou de vache et non de chaussures.
Il y en a qui ont de l'imagination.
Ouais,
hein?
C'est Stéphane Lemardelé là, qui nous raconte ça. D'autres contrebandiers chargeaient d'alcool leurs vaches ou leurs chevaux et les laissaient se promener dans les bois.
Ah.
Alors, une fois passé la frontière, les animaux, la frontière, eux autres, ça leur dit pas grand-chose. Le bois, c'est le bois. T'sais.
On les utilisait, ben oui. Mais les bêtes ne savent pas qu'elles sont illégales, qu'elles font des choses illégales. Ouais.
Alors, une fois passé la frontière, les animaux étaient récupérés par les Américains qui les déchargeaient et les laissaient repartir du côté canadien.
Alors, c'est l'alcool qui les intéressait, point.
Oui, oui, oui. Et comme les vaches et les chevaux sont capables de retrouver leur chemin, bien, les contrebandiers canadiens ne risquaient pas de les perdre dans la nature.
Ah bon?
Oui. Il y a une légende urbaine qui dit que les gens sur la frontière sont devenus riches. Ce n'est pas vrai. Les gens en ont profité, c'est sûr, mais ils ne sont pas devenus milliardaires. C'est la pègre qui s'est enrichie, souligne Laurent Busseau, qui rappelle que la contrebande est quand même restée vivante sur la frontière. Les gens ont continué à traverser les lignes pour acheter des biens introuvables ou trop chers ici, comme l'essence, certaines automobiles ou les télécouleurs quand ces dernières n'étaient pas encore offertes ici.
Il y a belle lurette.
Il y a belle lurette. Comme toute bonne chose a une fin, la contrebande d'alcool cesse en 1933 quand Washington décide de mettre fin à la prohibition. Pour les cantons de l'Est, la décision américaine est économiquement difficile, mais moins que pour Saint-Pierre et Miquelon. Ah ah! Les petites îles françaises perdues dans le coin de Terre-Neuve. Pour Saint-Pierre et Miquelon, la fin de la prohibition a été catastrophique. La vente d'alcool était une source de revenus très importante pour l'archipel. On raconte même que le jour de son abolition, le 5 décembre 1933, les drapeaux ont été mis en berne à Saint-Pierre et Miquelon. Fabulation ou vérité, à vous de choisir, si c'est vrai.
Quand les cantons de l'Est vivaient au rythme de la contrebande.
Et il y a une autre petite partie. Il n'y a pas que les cantons de l'Est qui ont été un terrain de prédilection pour les contrebandiers. Il y a aussi eu le Témiscouata, le bas du fleuve et la Gaspésie. Il n'est pas rare, durant les années de prohibition, de voir des pêcheurs gaspésiens transporter des chargements d'alcool provenant de l'entrepôt d'alcool de l'Amérique du Nord, le surnom donné à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était son surnom. Vers les États-Unis. Montréal a aussi bénéficié de ce lucratif commerce. Non seulement les Américains venaient profiter des folles nuits montréalaises, mais en plus, Des distilleries comme Molson et Seagram louaient des granges estriennes pour y entreposer l'alcool destiné à nos voisins du Sud. De l'alcool que les passeurs expédiaient avec beaucoup d'imagination.
Alors, sur ces propos alcooliques, merci Serge, on en sait plus sur la contrebande. Ça s'est déroulé dans les années, vous avez dit, ça s'est terminé en 1933?
En 1933, oui, c'est entre 20 et 1933.
OK, là, quand même une bonne dizaine d'années, religieuses compris, avec la guipure, etc. Pour ça, avec vous, Serge, en cette première journée mondiale des lacs, vous avez une brève concernant les lacs.
Bien, justement.
Ou le lac.
Oui. Quel pays possède le plus de lacs? Seriez-vous, vous risqueriez-vous une réponse?
Ah, clocher d'église Montréal, mais les lacs.
Les lacs. Clocher d'église.
Si on y va en termes de superficie, soit le Canada ou la Russie.
Bonne réponse. Ben, bonne déduction,
oui,
ben, Watson.
Oui, c'est là, oui. Mais c'est le Canada, figurez-vous.
Ah!
Oui. C'est le Canada qui en compte le plus avec plus de 900 000 lacs.
Presque un million.
C'est incroyable. Sur notre territoire.
C'est ça qu'on prend. On tient beaucoup pour acquis qu'on a de l'eau là, jusqu'à la fin des temps, mais ce n'est pas le cas.
Puis vous me demandiez de choisir.
La province de l'Ontario compte à elle seule environ 250 000 lacs, mais le Québec en aurait le double, soit 500 000.
Ouais, impressionnant.
Oui. Le lac Supérieur...
De source sûre?
Oui, ben oui.
De source sûre?
Oui. Je ne sais pas s'ils ont tous compté ça. Ouais. Mais quand on oublie, tu sais, le nord du Québec, là, c'est pas habité, puis il y a des lacs. Écoute, là, c'est la nature qui est là, alors... Même quand on se promène, quand on vous monte dans les rentiers, quand on le laisse, il y a des lacs à tout bout de champ, tu sais.
Des lacs à tout bout de champ.
À tout bout de champ, oui. Le lac Supérieur, qui a une superficie de 82 100 km², constitue 10 % des réserves d'eau douce de la planète. Quelque chose, ça.
Je me demandais, il y a des lacs qui portent des noms, vous en avez évoqué, vous en avez parlé tantôt, Mathieu, le lac du Boss. Mais c'est une blague de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mais il y a des lacs qui ont des noms quand même spéciaux.
Il faudrait
faire une chronique là-dessus. Là. Mmh. Il n'y a pas de nom qui me vient nécessairement lacs, en tête, mais des noms rigolos. Mmh. Comme des noms de villages un peu inusités. Mm-hmm. Est-ce que ça vous intéresse pour vrai?
Oui, je peux regarder.
Regardez-moi ça. Alors, des lacs, on passe à?
Les origines de deux expressions. J'en avais beaucoup, là, mais j'en ai passé cet été, vous n'étiez pas là.
Coquin. Vous avez fait de la contrebande?
Oui. Alors, l'expression « cogner des clous », savez-vous d'où ça vient, « cogner des clous »? Bon, on sait le sens de « cogner des clous ».
Ah oui, on sait le sens, mais non, l'origine?
Alors, ça se veut une phrase utilisant un style imagé décrivant une personne voulant rester réveillée alors qu'elle souffre d'une grande fatigue. Parce que, pensez-y, comme le mouvement de l'avant vers l'arrière que fait la tête lorsqu'on est en mode somnolent, tel un marteau frappant un clou.
Oui, tout à fait.
Ouais. C'est donc de résister au sommeil, même si notre tête tombe contre notre volonté.
Oui, à un moment donné, il faut aller se coucher.
Oui. Le bonhomme 7 heures.
Ah, il me semble l'origine que vous en avez déjà parlé.
Oui, je ne sais pas. Bon, je vais le réexpliquer.
Allez-y donc.
Pour les enfants d'une autre époque, ce personnage légendaire était aussi réel que le Père Noël. Mais ça vient d'où? La légende populaire dictait que les enfants devaient se mettre au lit avant 7 heures pour éviter de le voir apparaître. L'explication se trouve ailleurs. L'expression « bonhomme 7 heures » serait une déformation du terme anglais « bone setter », un ramancheur, une personne qui replaçait les articulations des malades et qui faisait des manœuvres pour guérir les douleurs au dos. Comme les personnes traitées criaient sous la douleur, cela effrayait les enfants qui se voyaient menacés de la visite du bon setter en cas de désobéissance.
Ah, ça a du sens.
Cet homme de main est ce que l'on pourrait appeler l'ancêtre des chiropraticiens.
Et il vous reste du temps aussi. J'ai trouvé quelques noms farfelus, là, selon un courriel que je viens de recevoir. Le lac Parzampa, en Abitibi.
Parzampa.
Le lac Podo.
Voyons.
Ça, c'est sur la Côte-Nord. Et toujours sur la Côte-Nord, le lac aux étoiles qui craquent. C'est beau, hein, les étoiles qui craquent.
Quelqu'un vous a envoyé ça?
Oui, oh, oui.
C'est gentil.
On le salue. Ah, oui. Continuez.
J'en ai une autre pour les lacs, pour les rivières. Quelle est la rivière la plus longue de l'Amérique du Nord?
Ah, vous en avez des questions.
Oui.
La rivière... La rivière quoi? Tous les boulots de la
d'Amérique
rivière.
D'Amérique du Nord. Non, okay. D'Amérique du Nord.
Bon.
Canada, États-Unis, je vous donne un indice, là. Je suis fin, là.
Je ne sais pas. Le Saint-Laurent, c'est une grosse rivière.
River.
Non, on parle le Missouri avec ses 3767 kilomètres.
Le Delta. Non, ouais. Mississippi, là, je suis ailleurs.
Formée il y a 30 millions d'années, c'est la plus longue rivière d'Amérique du Nord. C'était la route principale empruntée par les colons européens pour leur expansion dans l'Ouest. Cet affluent prend sa source dans les montagnes du Montana et son système fluvial draine l'eau douce de 32 États américains. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est énorme. Et
l'île d'Anticosti est-elle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Il me semble que oui.
Oui, hein? La plus grande île naturelle du Québec, située dans le golfe du Saint-Laurent, est accessible par bateau à partir de cette île de Havre-Saint-Pierre ou de Rimouski. Et elle a effectivement obtenu son statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023. Il aurait fallu à sa communauté plus de 10 années de travail acharné pour accueillir cette reconnaissance. Forte de ses 440 millions d'années d'histoire, l'île est reconnue pour être un site fossilifère important, en plus de présenter des intérêts multiples grâce à ses écosystèmes côtiers spectaculaires. 257 sites naturels se retrouvent sur cette grande liste de l'UNESCO.
2023, c'est tout à fait récent.
Ben oui,
alors,
2 ans.
Il y a juste 2 ans. Est-ce que c'est un endroit que vous aimeriez visiter?
J'aimerais ça, oui.
Ouais.
Mais ça doit, pour y aller, je pense, il faut que tu prennes l'avion ou le bateau. Mais c'est,
ouais.
Ça doit être assez, je pense que c'est assez coûteux.
C'est assez coûteux, oui. Ouais.
Existe-t-il des chutes plus hautes que celles du Niagara au Québec?
Ben oui.
Ah!
Montmorency? Oui! C'est vrai?
Les chutes du Niagara sont impressionnantes en raison de leur forme, mais elles ne mesurent que 57 mètres, ce qui fait en sorte que plusieurs chutes au Québec sont plus hautes qu'elles. C'est le cas notamment des chutes Montmorency à Québec, Vauréal à Anticosti, ou...
Anticosti, on y revient.
Oui. Et Ouyatchouan à Val-Jalbert au lac Saint-Jean.
On a eu peur, là. What?
qui mesurent respectivement 83, 76 et 72 mètres.
Bien, merci beaucoup, bon, voilà. Serge, pour toutes ces informations qui nous enrichissent l'esprit et qui alimentent aussi nos sujets de conversation pour le souper du week-end.
Oui.
Et là-dessus, ben, je vous salue. On a fait une inversion ce matin.
Hein?
On est de même, nous.
Parfait.
On joue un peu avec la programmation.
Oui.
Mais les unes des journaux s'en viennent après la chanson de 10 heures. Merci, Serge. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, je serai là.
C'est un rendez-vous.
Oui.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis. Vous écoutez Au quotidien.
Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
Un joli doublé, c'était Sacha Distel, La Belle Vie. Tout juste avant, on entendait Juillet, ça va y aller, Juillet de Carla Chanel.
Et heureusement qu'il y a de la musique pour adoucir nos cœurs, parce que les nouvelles sont pas nécessairement positives si on se fie aux unes des journaux. On va tirer partout et brûler tous leurs clubs. C'est à la une de la Presse Plus, les tentatives d'extorsion menées par le crime organisé plongent les propriétaires de bars et de restaurants dans un véritable calvaire qui atteint aussi leur famille, écrit Daniel Renault. Alors qu'une vague de menaces terrorise ce milieu, des documents d'enquête lèvent le voile sur les méthodes employées pour faire plier deux copropriétaires de plusieurs établissements à Montréal. Des coups de feu tirés sur la maison l'un d'eux quand ses enfants s'y trouvent, et sur leur bar en présence de clients, des lettres menaçantes accompagnées de balles de fusil. En moins d'un an, les copropriétaires de l'entreprise A5 Hospitality ont été visés à 13 reprises par des gestes violents d'intimidation, qu'il s'agisse de messages menaçants, écrits ou de vive voix, leur demandant de payer ou carrément d'épisodes de coups de feu. S'ils ne payent pas pour la sécurité, on va tirer partout et brûler tous leurs clubs, a notamment menacé un messager au printemps en s'adressant au gérant d'un bar appartenant à A5 Hospitality. Le lendemain soir, la maison d'un des copropriétaires de l'entreprise était visée par un tireur alors que sa conjointe et ses enfants étaient à l'intérieur. Ces informations se trouvent dans un document judiciaire récent sur l'enquête visant à élucider les coups de feu tirés en mai dernier sur l'un des bars d'A5 Hospitalité, le Fitzroy, sur l'avenue du Mont-Royal, et sur les tentatives d'extorsion contre les propriétaires. Ce document décrit toute la pression qu'ils ont subie, le mode opératoire des criminels et les importants moyens déployés par la police pour coincer les suspects, y compris ceux qui donnent les ordres. L'enquête démontre également que ce serait la gang Arab Power, un groupe émergent qui veut prendre plus de place sur l'échiquier du crime organisé montréalais, qui serait derrière ces menaces. Toujours à la une de la Presse Plus, c'est la première fois pour le prof aussi. On parle de la rentrée de François Pelletier, qui aspire à être enseignant depuis longtemps. Fébrile, il vivra ce mercredi son baptême du feu. Il est excité, stressé, fébrile, tout comme les enfants qui entrent en classe aujourd'hui. Pour la toute première fois, comme il en a tant rêvé, François Pelletier, fraîchement diplômé de l'Université de Montréal, aura sa classe à lui et ses élèves à sa charge. Alors, c'est Louise Leduc qui l'a rencontré. Il va enseigner dans le centre-sud de Montréal à l'école Garneau. On lui souhaite une bonne rentrée et une très belle année en espérant qu'il reste à son poste le plus longtemps possible parce que c'est tout un défi d'être enseignant-enseignante de ces temps-ci. Et donc, toujours à la une de la Presse Plus, on annonce la chronique de Mario Girard. Le Québec donne du bonheur à Washington face à la morosité qui règne actuellement dans la ville de Washington. L'organisme d'entente d'ici, sorte de SDC du centre-ville de la capitale, multiplie les initiatives pour offrir à ses citoyens des occasions de sourire et d'oublier la lourdeur ambiante. L'un des moyens trouvés consiste à disposer des installations interactives amusantes dans des places publiques. C'est là qu'entre en scène l'entreprise montréalaise Créos, qui, à travers les œuvres participatives Motion et Horizon, ou Motion et Horizon, a pour mission d'offrir un peu de bonheur aux Washingtoniens, maintenant obligés de vivre au quotidien avec la présence de militaires de la Garde nationale. Avouez que c'est plutôt ironique, le président américain Donald Trump mène contre nous une guerre aussi imprévisible que déloyale, et c'est vers nous que ses citoyens, consternés et découragés, se tournent pour puiser des sources de joie et de quiétude, écrit Mario Girard. À la une du Devoir maintenant, guerre commerciale, les tarifs sur les petits colis inquiètent les PME, raconte Annabelle Cailloux. La fin imminente de l'exemption de droits de douane sur les petits colis à destination des États-Unis inquiète des entreprises québécoises. Dès vendredi, ces paquets seront à leur tour assujettis aux tarifs imposés par le gouvernement Trump. On n'en sort pas. Une mesure qui risque d'alourdir les coûts pour les entrepreneurs, de compliquer l'expédition de leurs produits, voire de faire fuir leur clientèle américaine. Jusqu'ici, on était épargné par les tarifs grâce aux exemptions de minimis. On ne s'attendait pas, vraiment pas, à ce revirement de situation. Il y a un risque qu'on perde nos clients américains, ce qu'on ne veut pas, évidemment, confie Anne-Marie Laflamme, cofondatrice de la boutique de vêtements montréalaise Atelier B. Québec a appelé à renforcer la laïcité, Isabelle Porter. Interdiction de porter des signes religieux dans les garderies ou de couvrir son visage sur les bancs du cégep. Refus des salles de prière sur les campus. Fin des subventions aux écoles religieuses. Un comité d'experts sur la laïcité préconise une série de changements majeurs auxquels le gouvernement du Québec s'est dit déjà ouvert. Et tout ce que grand-mère a fait au lit sur scène, les vrais souvenirs de Carole, Hélène, Gérard, Isabelle, Walid et Yvon forgent le texte de l'édition montréalaise de la pièce « All the sex I've ever had ». Vous avez 65 ans et plus et vous avez envie de parler de sexe? Appelez-nous! Cette affichette, le Théâtre Prospero, l'a posée dans des bingos, des maisons de retraite, des bars, des CLSC, pour trouver les 6 aînés montréalais prêts à raconter sur scène toute leur vie sexuelle. Montréal est la ville où on a eu le plus d'aînés qui ont répondu à notre appel, lance en souriant Ryan Lewis, producteur du spectacle créé en 2010. Et je termine avec le Journal de Montréal, PKP. Pierre-Carl Péladeau lance un « wake-up call » entre guillemets au gouvernement, SOS pour notre télé. Et il y a des chroniques là-dessus, notamment celle de Guy Fournier pendant ce temps. C'est la fête à Radio-Canada. Elle a dit oui, et oui, elle n'est plus un cœur à prendre. Jusqu'à la prochaine fois. Taylor Swift et Travis Kelce qui vont se marier. Et les départs s'accumulent chez Santé Québec. Une autre dirigeante quitte le navire.
Ça mène, on verra s'il arrive. voir comme c'est beau. J'ai fait un bonhomme sourire avec des fruits. La poche c'est une orange. C'est de la vitamine C, c'est de l'énergie. Ça goûte les vacances.
C'est sur cette nouveauté de Pierre Guitard qu'on salue le collègue Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse, qui nous parle des nouvelles du Canada francophone. Ça n'a pas changé. Bonjour, Julien.
Bonjour, Hélène, et bon retour de vacances.
Ben merci beaucoup. Puis vous, ben bonne rentrée. Puis j'espère que vous avez passé de belles vacances.
Oui, absolument. Ouais.
Ça va vite, hein?
Trop vite.
Une chance qu'on aime notre boulot. Alors, oui. Allons-y donc, Julien, avec une première nouvelle tirée de Franco-Presse. Un bilan en demi-teinte pour le télétravail dans les communautés rurales francophones.
Le télétravail a eu un impact sur les communautés francophones du Canada. Selon quelques recherches, là, et on a parlé à des chercheurs qui ont fait ces recherches-là, il y a plusieurs communautés francophones, des francophones qui ont profité de la pandémie pour... ça leur a donné la possibilité de travailler à distance, donc de retourner dans leur communauté d'origine, apportant un certain dynamisme dans ces communautés-là. Et les organismes communautaires de ces villes-là se sont aussi organisés pour mieux les accueillir et les réinsérer, nous disent quelques-uns des chercheurs. Ça a aussi généré des opportunités économiques, notamment dans les maritimes, où l'augmentation du nombre de travailleurs à distance a augmenté, parce que dans cette région-là, historiquement, c'est plus des emplois qui se font, comme la pêche et la coupe de bois, on ne peut pas faire ça à distance. Donc, il y en avait moins. Ça a augmenté beaucoup. Il y a eu la création d'une vingtaine d'espaces de travail partagés dans la région en raison du télétravail. Il y a aussi eu des désagréments, évidemment, bien que l'accroissement de la population peut être bénéfique pour l'économie. Ça entraîne aussi l'augmentation des prix des logements dans certaines régions qui ont historiquement connu des prix plus bas. Puis l'arrivée parfois d'anglophones dans des communautés francophones a pu créer des tensions parce que les nouveaux arrivants sont pas toujours ont pas toujours une bonne compréhension de la réalité des villes où ils déménagent parce qu'ils la choisissent pour le lieu ou les services ou la qualité du service Internet. Et dans les communautés majoritairement francophones, ben on craint parfois que l'utilisation du français perdre la vitesse en raison de ces diminutions peut-être du poids des francophones. Dans d'autres parties du pays, ben, le télétravail a perdu plus rapidement en popularité, là, notamment en Alberta. On nous dit que le gouvernement essaie de revenir un peu plus vite au travail en personne et les entreprises suivent le même parcours.
Par ailleurs, une association d'aînés réclame des solutions à long terme pour les hôpitaux qui débordent.
C'est au Nouveau-Brunswick où le gouvernement s'est récemment donné plus de pouvoir pour classer en priorité des patients de niveau de soins alternatifs dans les établissements de soins de longue durée. Qu'est-ce que c'est un patient de niveau de soins alternatifs? Ben, c'est un patient qui est dans une unité de soins, mais qui n'a pas besoin du niveau de soins prodigué par cette unité-là. Le meilleur exemple, c'est quelqu'un qui récupère d'une maladie ou d'une blessure, qui n'a pas besoin de soins très fréquent, mais qui est dans un lit de soins intensifs parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Donc, l'objectif du gouvernement, c'est d'utiliser davantage le système de soins de longue durée pour ces patients-là. Par contre, la présidente de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, elle s'inquiète de cette mesure-là parce qu'une grande partie des patients qui ont nécessitent d'autres niveaux de soins, c'est des personnes âgées. Puis, elle s'inquiète justement de l'endroit où ces gens-là vont être envoyés. Même si le règlement, la loi au Nouveau-Brunswick fait qu'ils doivent être placés dans un centre où on peut les servir dans leur langue, donc en français, c'est pas tout, sur l'expérience sur le terrain, c'est que c'est pas toujours ça qui arrive. Des fois, ils sont placés dans un centre où il n'y a pas de service dans leur langue. C'est que pour la présidente Norma Dubé, le système de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick aurait dû être révisé il y a longtemps. Son équipe travaille d'ailleurs à une révision à long terme plutôt que des solutions pour sporadiques qu'ils veulent suggérer au gouvernement.
Et dans le droit, il est question d'une autre bataille qui se pointe à l'horizon pour les Franco-Ontariens.
Oui, c'est l'opposition officielle à Queen's Park et des groupes liés à l'éducation francophone demandent au gouvernement Ford d'abroger le projet de loi 33. Ce projet de loi-là, qui n'est pas encore adopté, donnerait au ministère de l'Éducation le pouvoir de superviser plus facilement les conseils scolaires des centres de la petite enfance ou établissements postsecondaires. Alors, quand on parle de superviser plus facilement, c'est vraiment une prise de contrôle. Le gouvernement Ford a mis 4 conseils scolaires anglophones sous tutelle depuis au cours des derniers mois, en donnant comme excuse que les finances étaient mal gérées. Fait que le projet de loi 33 faciliterait, simplifierait ce processus-là. Les francophones réagissent plus fortement à cette possibilité-là. Comme c'est toujours le cas, quand le gouvernement veut s'initier dans les champs de compétences acquis au fil des ans, la Charte canadienne des droits et libertés et des jugements de la Cour suprême ont bien établi que les francophones ont le droit de garder le contrôle sur leur école, sur leur éducation. Et le gouvernement prenait de force, entre guillemets, là, ou sans raison valable, le contrôle ou la direction d'un conseil scolaire, ça pourrait contrevenir à ce droit-là des francophones. Pour l'instant, les conseils scolaires eux-mêmes ne crient pas trop fort parce que ils sont financés par le gouvernement. Ils sont habituellement, se gardent habituellement un droit de réserve sur ce genre de questions-là, mais disent craignent quand même que la concentration d'autant de pouvoir dans les mains du ministère de l'Éducation.
Bon, maintenant, une nouvelle plus positive. Vous nous parlez du tourisme autochtone en Ontario qui est en vogue.
Oui, puis d'après Indigenous Tourism Ontario, il y a 30% des activités touristiques autochtones au Canada qui se déroulent en Ontario. Puis la demande pour ce genre de tourisme-là, qui allie souvent la nature, la culture et le territoire, serait en hausse. Fait que c'est pour cette raison-là que le gouvernement fédéral a annoncé un investissement pour encourager le développement d'un corridor touristique qui irait du sud de l'Ontario jusqu'à Sault-Sainte-Marie en passant par l'île Manitoulin. Il y a également un rapport qui recommande que le gouvernement de l'Ontario finance le tourisme autochtone dans cette région-là. Puis pourquoi cette région-là particulièrement? Bien, il peut y avoir deux raisons à ça. Premièrement, l'île Manitoulin est un lieu touristique intéressant parce que c'est la plus grande île en eau douce au monde. Et c'est aussi l'endroit où il y a le seul territoire autochtone non cédé au Canada. La Première Nation de Wikwamekong n'a jamais été cédée aux colons anglais ou français. Puis, il y a un millier d'îles dans le lac Huron également qui n'ont jamais été cédées. Donc, la culture et la façon de vivre des Autochtones sont encore très présentes sur l'île Manitoulin, puis on souhaite la faire découvrir à travers ces initiatives-là.
Bien oui, c'est une très belle initiative, justement. Il y a des élèves qui ont donné une leçon de français à des élus municipaux. On reste maintenant, c'est dans la baie Georgienne que ça se passe?
Oui, puis oui, c'est comme la Penetanguishene, c'est comme sur la péninsule de Bruce, c'est un peu une extension de l'île Manitoulin. On est presque dans la même région. Mais lors d'un travail sur la vie citoyenne des élèves de 3e et 4e année d'une école francophone de Penetanguishene, comme vous avez dit, dans la baie Georgienne, on remarquait que le site web de la ville était uniquement en anglais, alors que Penetanguishene est une région bien connue pour sa francophonie aussi. Mais un autre groupe avait remarqué, eux, que le site de la ville de Tigny était bilingue. Alors, avec l'aide de l'enseignante, ils ont préparé une lettre qu'ils voulaient envoyer ou aller porter au conseil municipal. Finalement, il y a deux conseillers municipaux qui sont allés dans la classe pour recevoir la lettre en main propre et discuter avec les élèves de cette question-là. Ils ont remercié les élèves parce qu'effectivement, personne à la ville n'avait pensé, réalisé que le site était pas en français. Puis, sans faire de promesses, ils ont dit qu'ils se penchaient sur la question avec la responsable des communications cet automne pour voir si ce serait possible de traduire le site. Le Goût de vivre, le journal où on a la nouvelle, s'est entretenu avec une traductrice professionnelle pour voir qu'est-ce qui se passe. Comme elle dit, traduire un site de genre-là, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars là, parce que ça fonctionne au mot. Donc, ça dépend du nombre de mots qu'il y a sur le site. Puis donc, le budget est souvent un obstacle à la traduction des sites web des municipalités et de d'autres aussi. Ils nous font remarquer que le site de Tigny, oui, est en plusieurs langues, mais c'est grâce à un système automatique, là, souvent fourni par une grande entreprise américaine, qui permet d'avoir le site en français, oui, mais en d'autres langues aussi. C'est pas toujours la traduction la plus exacte que ça donne. Mais au moins, peut-être à la fin, c'est sûrement les élèves qui ont appris le plus de cette aventure-là.
Nouvelle parue sur Le goût de vivre. C'est beau, ça, Le goût de vivre. Et on finit avec une nouvelle culturelle. La francophonie de la Colombie-Britannique se cherche une chanson. Exercice de diction.
Oui, c'est vrai. C'est le journal La Source qui nous parle de ça parce que ce qu'on raconte, c'est qu'au moment du lever du drapeau franco-colombien, pendant le mois de la francophonie au mois de mars, la Fédération des francophones de la province a réalisé qu'il manquait quelque chose de rassembleur en plus du drapeau. Une chanson qui existe dans d'autres provinces. En Ontario, on a notre place. Je ne vais pas vous dire les chansons des autres provinces, mais Colombie-Britannique se sont dit on a besoin d'une chanson. Donc, ils viennent de lancer un sondage en ligne ouvert au public. Ça va être suivi d'ateliers participatifs d'écriture, puis de paroles de chansons et de compositions musicales. Il va y avoir une révision faite par un comité issu de la communauté et ce qu'on souhaite, c'est que cette hymne-là soit diversifiée à l'image de la francophonie de la Colombie-Britannique, que ce soit le plus représentatif possible de tout le monde. Et si tout va bien, la chanson va être dévoilée lors du mois de la francophonie en 2026.
Le mois de la francophonie, c'est quand?
Mois de mars.
À suivre, donc. Merci beaucoup, Julien. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Au quotidien avec Hélène Denis.
Enfants de l'avenir.
Isabelle Pierre, Les enfants de l'avenir.
Inspiré par le titre du film écrit, produit et réalisé par le comédien Emmanuel Schwartz, L'Avenir, film qui prend l'affiche vendredi 29 août. Et Emmanuel Schwartz est au bout du fil. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Ça fait plaisir. Quelle belle introduction. On peut seulement souhaiter que ces interprètes, ces jeunes artistes soient heureux, comme l'indique la chanson.
Alors, est-ce que vous diriez qu'ils sont heureux parce que vous les avez côtoyés, ces étudiants du cégep Lionel Groulx à Sainte-Thérèse, pour créer ce film-là?
Heureux à cause parce qu'ils m'ont côtoyé, je ne sais pas.
Non. Oui, c'est vrai, je me suis mal exprimé.
Certainement fier d'avoir participé à un long métrage, ça c'est sûr. Puis je pense que l'expérience a été forte pour eux et pour moi. Et pour l'école, c'est la deuxième fois qu'on produit un long métrage dans le cadre de l'apprentissage de des cohortes finissantes. On avait fait Projet Pigeon en 2021 et là, on a récidivé avec l'avenir. Et bon, on semble être sur les rails pour recommencer en 26-27 avec une nouvelle cohorte. Donc, je peux juste espérer que le projet devienne pérenne. Qui sait, peut-être même que ça deviendra à la mode. Je sais qu'en Europe, c'est déjà... Je reviens de Paris, oui, où j'ai répété avec Wajdi Mouawad de la pièce Le Serment d'Europe pendant quelques mois avant d'aller en Grèce. Mm-hmm. Et des amis comédiens professionnels là-bas me disaient qu'ils participaient de plus en plus à des projets de long métrage comme ça, de cohorte finissante des différents conservatoires qui, comme à l'image d'une autre, là, ont des petites vies modeste, mais généreuse pour de tels projets. Donc, j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps, que les écoles sont de plus en plus sensibles à la fois aux envies des étudiants puis aux réalités du métier, c'est-à-dire que les jeunes interprètes auront à faire du jeu devant la caméra. Donc, pourquoi pas les plonger rapidement dans un contexte professionnel?
Ah, parce que je me posais la question, un homme de théâtre, des gens de théâtre, pourquoi un film plutôt qu'une pièce de théâtre?
Ben justement, c'est ce que je commençais à vous raconter. Ouais. Là. J'ai l'impression, bon, d'abord, il y a deux réponses, parce que la première, elle est très pratique là pour le Québec. Vous le savez peut-être, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est quasiment impossible pour quelqu'un pour un interprète de théâtre de gagner sa vie uniquement au théâtre. Mm-hmm. Forcément, il devra faire de la voix, il devra peut-être même faire de la publicité, mais certainement jouer à la télé, faire du cinéma. Donc, ça fait maintenant complètement partie d'un apprentissage qui doit être fait à l'école de théâtre, qui peut-être devrait peut-être changer de nomenclature, là, devrait peut-être s'appeler école de jeu. Là. Mais,
il y a des acteurs aussi, des actrices qui deviennent des animateurs, des animatrices. Ça, on peut ratisser large, là.
Tout à fait. Et puis, la deuxième partie de la réponse, c'est que la démocratisation des outils du cinéma, des outils de prise de vue, de prise de son, de post-production est telle que là où dans la deuxième moitié du 20e siècle, la troupe de théâtre était la solution pour pouvoir faire pour pouvoir travailler quotidiennement à des œuvres modestes quand on a peu de moyens, mais on pouvait continuer à faire son métier de manière engagée. Maintenant, c'est possible de faire ça au cinéma. C'est possible avec peu de moyens, de se lancer dans une carrière, soit d'écriture, de réalisation, de montage, de tous les métiers attenant au cinéma et à la télévision, avec moins de moyens. Il y a des programmes professionnels que les grands studios utilisent qui sont disponibles gratuitement sur Internet, là, quand je pense à DaVinci Resolve ou des choses comme ça. Donc, c'est la deuxième partie de la réponse, elle a à voir avec l'air du temps.
Mm-hmm. Et Emmanuel Schwartz, vous êtes dans l'air du temps parce que vous ne faites pas que jouer, vous faites de la mise en scène. Vous avez donc écrit, produit et réalisé ce film et c'est votre deuxième long métrage. Mais où vous avez appris à faire du cinéma?
C'est une bonne question. j'ai l'impression que Aussi, c'est quelque chose de générationnel. Il y a, comme on a grandi, moi je suis né dans les années 80, la télévision, le magnétoscope était bien implanté dans mon salon. Et puis, je dirais que j'ai grandi devant l'écran. Donc, est-ce que c'est j'ai pas fait d'école de cinéma, mais mon école de cinéma, je me la suis fait à la maison. Et j'ai grandi même à l'école de théâtre, où je me suis ouvert un peu plus. J'étais assez chanceux pour avoir un ami qui travaillait à la Boîte Noire, qui me faisait ses suggestions.
La regrettée Boîte Noire.
La regrettée Boîte Noire, c'est ça. Puis je repartais je repartais à Sainte-Thérèse la semaine avec 4 ou 5 cassettes à visionner de grands films du répertoire international. La réponse courte, c'est que mon éducation de cinéma, je me la suis fait moi-même.
Ouais.
Et puis après, ben en observant les petits et grands réalisateurs et réalisatrices avec qui j'ai travaillé en tant que comédien.
Mm-hmm. C'est comme l'écrivain ou l'écrivaine qui apprend à écrire en lisant. Alors vous les avez appris à faire du cinéma en regardant des grands films.
Oui, puis je prétends pas non plus être arrivé à la maîtrise du septième art. C'est l'occasion. Ces films sont l'occasion autant pour les interprètes que pour moi de faire des tests, de tenter un cinéma autre aussi qui a peut-être plus de filiation avec le théâtre que ce qu'on a l'habitude de voir.
Vous avez d'ailleurs qualifié votre film d'OCNI et ça fait beaucoup parler, là, un objet cinématographique non identifié. Pourquoi?
Oui. Ben justement parce que je trouve que les filialités avec le théâtre sont peut-être plus grandes.
Ouais.
Cela dit, quand j'y repense, je me dis que c'est peut-être un peu prétentieux d'avoir nommé ces œuvres comme cela.
Ça frappe l'imaginaire, en tout cas.
Ben, c'était ça l'idée.
Ouais.
Puis c'est surtout la quantité, les libertés dramaturgiques que je me donne au cinéma qui ont peut-être plus à voir avec une écriture dramatique à proprement parler, la quantité de mise en abîme, de fausses pistes. J'ai l'impression qu'on est un peu formaté à penser au cinéma en Amérique comme une structure en trois actes qui nous vient directement de la pensée d'Aristote et de cette écriture dramatique-là.
Mm-hmm.
Tandis que j'ai l'impression que mon écriture scénaristique a plus à voir avec la nouvelle vague et où le théâtre de Pirandello que les films plus classiques qu'on a l'habitude de voir ici et ailleurs. Ouais.
Et quels thèmes sont abordés dans votre film, Emmanuel Schwartz?
Ben je vais peut-être me répéter ou répéter les paroles d'ouverture du film donné par le personnage du professeur de mouvement. Mais j'ai voulu parler.
Hélène.
Oui, c'est
elle
ça.
Un très beau prénom d'ailleurs, comme moi.
Ouais. La grande Hélène.
Oui, oui.
Qui est à la fois une caricature, mais
qui aime les cristaux.
Oui, c'est ça qui peut être un peu considéré peut-être comme un peu ésotérique, là, sa fascination pour les éclipses et les cristaux
ouais.
en parle, mais je sens que ce qu'elle dit, peut-être de manière un peu brutale dans le film, aborde de front ce dont le film veut parler, c'est-à-dire le désir d'être artiste, le désir de l'art, puis ce que ça demande comme sacrifice de se lancer dans une carrière d'artiste, qui est un mot qui me déplaît d'ailleurs.
Ah
parce
oui?
que ben j'ai l'impression que il n'y a que par la carrière qu'on peut arriver à...
Ah d'accord, je pensais que c'était le mot artiste qui vous dérangeait, carrière, je comprends.
Oui, oui, c'est ça, qu'on considère que notre succès est mesuré à l'évolution d'une carrière,
mm-hmm.
quand j'ai l'impression qu'en art, il y a quelque chose de beaucoup plus personnel qui se joue, puis notre contact et le le va-et-vient qui peut exister entre notre contact à une pratique particulière comme celle du jeu ou celle de l'écriture ou celle de la mise en scène, c'est difficilement quantifiable en termes de succès carriériste.
Ouais. Hein, donc le plan de carrière pour Emmanuel Schwartz, ça n'existe pas.
Je suis bien obligé de gagner ma vie, donc je peux pas l'ignorer complètement. Puis j'ai eu la chance, en tout cas, que c'est un mélange de circonstances, de chance,
de talent aussi,
et d'envie, en tout cas, ou c'est du moins c'est l'hypothèse que je pose dans le film, que qu'on prend la mesure de notre envie. D'être artiste par le désir qu'on ressent. Oui.
Et comment vous avez dirigé les acteurs, les actrices du film qui sont fraîchement diplômés là, de Sainte-Thérèse?
Ben, même au moment où je les dirigeais, ils n'étaient pas encore diplômés. Hein. C'est l'idée de ces productions, c'est qu'une de leurs productions publiques, donc qui sont au nombre de trois normalement, trois pièces de genre et de style différents. Maintenant, aux deux ans, on propose à une cohorte qu'un de ces spectacles soit remplacé par une production cinématographique. Donc, puisqu'ils sont maintenant, comme je le disais au début de notre entretien, ils sont initiés plus rapidement que même nous on l'était il y a 20 ans à l'école. Ils ont des cours de jeu à la caméra avec des professionnels aguerris dès la première année de leur formation.
Okay.
Mais ça demande quand même, dans un contexte où ils ont à tenir une ligne sur un film d'une heure et demie, les variations des impulsions de jeu demandent à être examinées une par une. Là. Et puis, une crise de colère ou l'expression de la peine ou même des choses plus délicates ou subtiles comme de la gêne ou de l'impassibilité demandent à être vraiment dépliées et parfois comparées à l'impulsion de jeu théâtral. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Moi, je commence par mettre en place le film comme si c'était une pièce de théâtre.
Mm-hmm.
D'ailleurs, on a le privilège de répéter un film pendant 2 mois, ce qui est complètement irrégulier et exceptionnel. Là.
Tout à fait, c'est un cadeau.
Tout à fait. Ça donne aussi l'occasion à tout le personnel professionnel de l'équipe de tournage de venir voir ce qu'on va faire, ce qui n'arrive jamais. Tu sais. Donc, autant pour eux que pour les interprètes, ça leur permet pas à pas de déplier les différentes séquences. Et donc, pour reprendre ma pensée, je le faisais presque par comparaison. Donc, on met en place les scènes et je laisse aller les étudiants et étudiantes avec leurs impulsions de jeu. Puis après, on analyse ce qui se passe. Puis on se pose la question de si on a à filmer cette séquence en très gros plan, qu'est-ce qui serait différent? Si on se dit que cette séquence-là sera un plan séquence très large, est-ce que tous les réflexes de théâtre ou d'interprétation théâtrale tiennent, ou est-ce que la grande articulation, prononciation, projection doit quand même être modifiée, atténuée, le ressenti, est-ce qu'il doit être aussi expressif dans une séquence filmée que dans une séquence sur scène? La réponse est souvent la même, c'est-à-dire que c'est juste une question de potentiomètre. Là, j'utilise cette métaphore de montage là, sonore, c'est-à-dire que faut juste baisser le volume un peu sur tout, autant le volume vocal que le volume de l'expressivité du corps, tout en conservant le marais émotif, qui est une expression qu'on utilise souvent en interprétation, ou appelons ça le feu ou l'émotion, comme on veut, mais comment conserver cette sensibilité en changeant de médium.
Le marais émotif... Je retiens ça. Lou Séguin, Charlie Gauvreau, Héloïse Lalumière, Delphine Ricard, Chloé Derias ou Doria, Amélie Tremblay, Kim Gosselin, Félix Poirier, Camille Provencher, Frédéric Créaume, c'est la cohorte donc qui joue dans l'avenir. Et aussi, on trouve des acteurs plus connus là, qui font le métier depuis quelques années.
Oui,
je pense à Bruno Marsil, à aussi Eve Duranceau.
tout à fait.
Denis Côté, lui, il est pas, c'est pas un acteur, mais il joue dans votre film, le réalisateur.
Il joue son propre rôle. Oui, c'est effectivement. Ça. Il y a un des professeurs de Sainte-Thérèse qui est un grand acteur aussi, Daniel Parent, qui fait un chauffeur de Uber qu'on a transformé en service hippo pour le film, pour ne pas emprunter l'image de Marc et se retrouver dans le pétrin.
Oui, pas très diplomate hein, comme personnage, comme chauffeur.
Non. D'ailleurs, il veut bien faire.
Ouais.
Hein, juste en contact avec cette étudiante. Puis malheureusement, il se met le pied dans la bouche trois fois plutôt qu'une. C'est ça. Pour cette raison-là aussi, tu sais, c'est vraiment un privilège de pouvoir tourner dans un contexte académique puisque ça invite à la générosité de tous les professionnels qui participent.
Ça, c'est admirable et merveilleux. C'est bien. Cette générosité-là, c'est l'amour de l'art, finalement. Et probablement l'amour pour Emmanuel Schwartz. Travailler avec lui, avec vous.
Ça, je ne saurais dire. C'est sûr que je tends la main à des gens que je connais et que je côtoie dans le milieu. Là. Mais qui sait pour le prochain si je tenterai pas des approches avec des interprètes que je connais moins, voir si ça leur tente. J'ai l'impression que je sais pas, l'invitation est tellement ragoûtante de dire as-tu envie de venir passer une journée ou deux avec des interprètes qui apprennent dans un bon ça c'est sûr qu'on est toujours un peu pressé comme sur tous les plateaux québécois on tourne ici particulièrement on tourne des longs métrages dans des temps records. Donc, ça se passe vite, mais je pense qu'on a tous aussi des souvenirs assez fabuleux de nos moments à l'école de théâtre. Donc, si ce n'est que pour revisiter ou tâter du bout des doigts un peu de ces moments bénis, les professionnels on se montrent très généreux.
Oui, la transmission, c'est fondamental aussi. Et l'avenir, votre film a été présenté en première mondiale au FIFA, au Festival international de films sur l'art, et même qu'il a remporté le prix de la meilleure œuvre canadienne. Bravo!
Incroyable!
Bravo!
Oui, merci. C'est vraiment incroyable. Quelle belle tape dans le dos.
Vous êtes présenté où, votre film, Emmanuel?
Donc, notre film va jouer à partir de vendredi au cinéma Beaubien pour une semaine. Bon, une première semaine de programmation. Qui sait si l'affluence fera en sorte que quelques représentations s'ajouteront.
Ouais.
Mais en tout cas, il va y avoir 8 représentations à partir de vendredi au cinéma Beaubien. Dimanche, il y a une représentation avec questions-réponses après la représentation avec moi et certains interprètes. Et puis, il y aura aussi une représentation au cinéma public le 12 septembre. Et sinon, ça a déjà eu une belle petite vie. Ça a joué au Festival de films d'auteur de Valmorin et il vient d'être présenté au Festival des Perséides à Percé où j'avais aussi le plaisir de faire partie du jury long métrage.
Oui.
Donc déjà, c'est des belles vies pour des projets modestes et c'est surtout de très belles plateformes pour montrer au monde ces jeunes interprètes qui mérite toute notre attention.
Et donc, un beau présent pour l'avenir. On souhaite un bel avenir aussi pour le film. Un jeu de mots facile, mais t'entends. Alors, parlons un petit peu de votre été, Emmanuel Schwartz. Vous avez joué, vous l'avez dit tantôt, dans la pièce Le Serment d'Europe de Wajdi Mouawad au 70e Festival de théâtre d'Athènes Épidore de Grèce. Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer dans l'un des premiers théâtres de la civilisation occidentale devant 14 000 personnes aux côtés de Violette Chauveau et d'autres interprètes, dont Juliette Binoche?
Bien, que le package, comme on dit en bon français, était déjà très, très, très invitant et très enthousiasmant. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire pour se sentir touché par la grâce.
Non, j'imagine, mais en même temps, il ne fallait pas perdre le contrôle non plus. Hein?
Non, c'est ça. Il fallait garder la tête froide. Mais c'est ça, c'était pas très compliqué de se sentir d'abord extrêmement privilégié et extrêmement inspiré lors de ces deux représentations. Le travail qu'on a fait à Paris au Théâtre de la Colline, qui est un des derniers projets que Wajdi Mouawad aura travaillé à la colline, puisque la colline tombe en rénovation et le théâtre a donc fermé jusqu'au mois de mars 26, avant son projet de sortie, le remontage de Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Donc c'était d'abord une ambiance de travail vraiment joyeuse, malgré la dureté de la thématique de la pièce. Wajdi n'a pas changé et il prend à bras le corps des thématiques actuelles pas faciles. Des questions vraiment piquantes, et il les aborde par le chemin d'une écriture survoltée, parfois absolument délinquante, mais jamais dénuée de poésie et d'érudition à la fois. Donc,
C'est que la production a de très bonnes chances de passer par Montréal et d'autres villes du Québec en 2026, et ça va être une bonne raison de vous réinviter, Emmanuel Schwartz. Et j'aimerais aussi en profiter pour dire que la critique française vous a vraiment apprécié. Fantastique et bouleversant acteur canadien.
Ben oui, dans ce temps-là, on peut juste remercier les cieux qu'ils étaient de bonne humeur ce jour-là.
Bien, en tout cas, je vous souhaite de garder votre bonne humeur et aussi, j'ai entendu entre les branches que vous allez être père, petit potin ici.
Ben oui, ça c'est peut-être le plus grand spectacle de ma vie qui commence. Là, donc,
Est-ce que c'est arrivé, là, ou ça s'en vient?
Ça s'en vient. On est dans les dernières semaines, les derniers mois pour préparer l'arrivée de cette mon Dieu,
cette œuvre d'art.
Oui, c'est ça. J'allais dire bénédiction, puis là, après ça, je me suis retenu. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai le dialogue chrétien un matin. Je préfère votre expression. C'est ça, la grande œuvre se prépare. Oui. Et on est bien sûr enjoué.
Alors, c'est sur ces bons mots qu'on va se laisser. Merci encore d'avoir été avec nous, de votre générosité. Et je rappelle que l'avenir prend l'affiche vendredi 29 août au Beaubien. Quelques représentations. Puis ensuite, on va suivre toutes vos activités, votre actualité. Merci, Emmanuel Schwartz.
Merci, Hélène. Bonne journée.
Bonne journée. Beau cette musique, bien choisie par vous, Mathieu Tessier, que je remercie. Et on va se retrouver demain, j'espère bien, à compter de 9h30. Vous pouvez aussi nous réécouter en rediffusion sur différentes plateformes, sur notre site aussi, canalm.vusebois.com. Ici, Hélène Denis qui vous dit à demain. Bonne journée!